RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Bernard Pivot.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL pour ce Laissez-vous tenter exceptionnel. Vous publiez aujourd'hui même chez Albin Michel La mémoire n'en fait qu'à sa tête, un savoureux recueil de souvenirs. Est-ce que vous l'entretenez votre mémoire et est-ce que ça se travaille? Moi, elle m'a l'air excellente cette mémoire-là.
Oui, je la travaille avec les tweets.
Ah oui ?
Oui, ben c'est un exercice mental et c'est un exercice de style. Donc, à résumer sa pensée, un souvenir, une idée en moins de 140 signes, c'est un effort de la tête, des méninges. Il faut s'appliquer. Donc, c'est très bon pour le fonctionnement du cerveau.
Ah ben, vous me faites voir les tweets autrement, là, avec ces commentaires. Alors, on va prendre le temps de parler de votre livre, bien entendu, dans un instant, avec Bernard Lehu. En studio également ce matin, Charlotte Arrigoni, qui nous livrera les Express du jour, et puis Isabelle Morini-Bosque, qui nous proposera sa sélection de programmes télévisés. Bernard, la mémoire n'en fait qu'à sa tête, et donc un recueil de souvenirs, mais d'une facture plutôt originale.
Ben oui, c'est ce que vous appelez poétiquement, Bernard Pivot, les ricochets de votre mémoire. Oui. Au hasard de vos lectures, des pages de votre passé refont surface et rebondissent tels les galets que vous lanciez sur la surface des étangs et des rivières de votre jeunesse. Oui. Donc au petit bonheur, nous voilà embarqués dans un chapelet de souvenirs aussi variés que le fil d'une vie. Les souvenirs professionnels, bien sûr, du journaliste littéraire et de l'animateur d'Apostrophe. Et puis les souvenirs plus intimes de l'enfant et de l'homme, Bernard Pivot. Ben, si on commençait par cela, tiens.
Oui, avec plaisir.
Et alors par le plus surprenant d'entre eux.
Ah oui.
Quand, pensionnaire des Frères du Sacré-Cœur à Lyon, vous êtes renversé sur un bureau et embrassé sur la bouche par l'un de vos camarades.
C'est une chose que j'avais jamais évoquée. C'est une chose bizarre. Vous savez, je dois avoir 12 ans ou 13 ans et ces histoires-là, surtout à l'époque où la sexualité, c'était la grande muette. C'était l'armée qu'on appelait la grande muette, mais c'était en vérité la sexualité. Et donc, j'étais un peu éberlué et évidemment, ça ne m'a pas plu du tout parce que dès ce moment-là, j'avais déjà moi mon corps un peu chauffé dès que je voyais une pianiste par exemple avec les épaules dénudées sur l'affiche d'un cinéma, ça me troublait beaucoup.
Mais donc, dites-moi, frère Pivot, vous aviez besoin de vous confesser? Ce baiser dont vous n'aviez jamais parlé.
Ah non, parce que j'y suis pour rien.
Mais je sais que vous n'y êtes pour rien.
Mais pour rien. Pas
l'air indigné.
Attendez, on est responsable que des baisers qu'on donne.
Oui, pas de ce qu'on reçoit.
Hein ?
Pas de ce qu'on reçoit.
Ça dépend. Si vous avez, avec une complaisance affirmée, vous ouvrez la bouche pour recevoir le baiser, oui.
Alors, vous concluez quand même en disant il était pas mal.
Le garçon, le baiser. Le garçon.
Oui, c'est assez charmant, ça.
Oui.
Vous sent mal à l'aise par rapport à cette histoire, et en même temps vous avez le courage, je dirais, on pourrait dire la gentillesse, de dire finalement il était pas mal.
Oui.
Alors ça n'a rien à voir. La sensualité, plaisirs occupent une large place dans votre livre. Autre souvenir remontant à l'enfance, alors ça c'est merveilleux. La tartine, beurre, confiture, le comble de la gourmandise et surtout du luxe. Écrivez-vous.
Ben oui, parce que pendant la guerre, on commençait à faire des tartines de beurre et confiture. Mais à la guerre, c'était ou le beurre, qui était absolument dégueulasse d'ailleurs, et la confiture où il n'y avait pratiquement pas de sucre. Et ma mère, évidemment, c'était des privations, c'était la disette, elle disait, bon, ou beurre ou confiture. Sauf le dimanche, parce que nous étions... J'appartiens à une famille très chrétienne, donc le dimanche et les grandes fêtes religieuses, alors on avait le droit de mettre beurre et confiture. Mm-hmm. Mais ça, c'était tout à fait exceptionnel.
Je viens de voir le sourire dans votre regard d'enfant. J'ai vu réapparaître le petit pivot au moment où il avait sa tartine.
La réminiscence. Et d'ailleurs, vous partez d'une citation de Félicien Marceau qui dit « Du bon sur du bon, ça ne peut faire que
du bon ».
Ben voilà.
Alors, c'est parce que justement, j'ai relu ce roman de Félicien Marceau que je suis tombé là-dessus et ça m'a rappelé effectivement le beurre confiture.
Oui. Et c'est tout le principe de votre livre, à partir de vos lectures, les réminiscences remontent comme ça à la surface. Alors, vous célébrez toujours l'épicurien, Bernard Pivot, et on lit ça avec plaisir, vous célébrez aussi le vin, un ami bienveillant et fidèle, dites-vous.
Ah ben oui, parce que le vin, bizarrement, m'a accompagné toute ma vie. D'abord parce que ma mère possédait une petite propriété dans le Beaujolais. Donc
votre mère.
J'ai passé toute ma jeunesse à faire d'ailleurs des travaux de la vigne pendant les vacances, et en particulier les vendanges, qui pour moi était une grande période de libération sensuelle, surtout. Et puis après, le vin m'a accompagné. Par exemple, Bukowski, par exemple, qui est l'émission la plus célèbre d'Apostrophe, c'est quand même, il s'est saoulé la gueule devant 2 millions de téléspectateurs en sifflant une bouteille de Sancerre. Donc ça fait un scandale incroyable, et c'était du vin.
Vous êtes recruté aussi au Figaro grâce au vin.
Grâce au vin, c'est parce que justement, je pouvais fournir au rédacteur en chef un caquillon de Beaujolais, un petit tonneau de 10 ou 20 litres qu'il m'a pris à l'essai, et qu'ensuite je suis resté dans le journalisme littéraire.
Et alors, vous proposez même un enseignement au lycée de l'histoire culturelle du vin et des grandes années, des millésimes, comme on enseigne les grandes dates de l'histoire.
Le vin... j'ai écrit un dictionnaire amoureux du vin. Donc le vin fait partie de notre culture, il fait partie de notre histoire, il fait partie de l'histoire des religions. Donc le vin, c'est pas un médiocre petit alcool comme ça qu'on boit entre deux portes. Non. Le vin, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et donc je pense qu'il devrait y avoir un moment je sais pas dans quelle classe, en tout cas au collège ou au lycée, un enseignement pour dire voilà le vin, raconter l'histoire du vin tout simplement.
59 pour les Bourgognes, hein, entre autres.
Un amateur.
Monsieur est un connaisseur. Ah
ouais. Non, je vous ai lu. En même temps, c'est mon année de naissance, donc ça m'a frappé. Alors, vous goûtez aussi le plaisir des mots, bien sûr, et notamment les expressions populaires. Ça, c'est assez charmant, par exemple, comme les carottes sont cuites.
Ah oui, mais alors, oui, j'aime bien les expressions, parce que je leur ai même consacré un livre. Mais ce qui m'a épaté quand j'avais 17 ou 18 ans, c'est qu'un jour, j'ai lu dans Art, qui était un vieux journal culturel, un article de Jacques Laurent. Oui, il s'en prenait à Simone de Beauvoir et à Jean-Paul Sartre parce qu'il faisait ce qu'on appelle des romans à thèse. Alors, le roman à thèse, et donc la première phrase de l'article de Jacques Laurent, c'était le roman à thèse de Sartre et de Beauvoir. Dès le début, on sait que les carottes sont cuites.
Ça veut dire c'est tellement drôle.
Et alors, moi, j'avais été étonné. Je disais, mais moi, lycéen, si je mets les carottes sont cuites, ou bien on n'est pas sorti de l'auberge, ou bien etc., on va me mettre un gros trait rouge en me disant, mais c'est scandaleux, votre truc. Et donc, j'ai été très étonné par cette manière qu'avaient les écrivains de mettre des phrases un petit peu familières, parfois pas un petit peu presque vulgaires, au milieu de très magnifiques démonstrations littéraires. Donc ça m'a beaucoup étonné, je me suis dit, mais au fond, ils sont très hypocrites, les adultes, ils nous empêchent de faire ce qu'eux font. Donc j'étais un peu scandalisé.
Alors, nous vous faisons gagner, vous qui nous écoutez ce matin, le livre dédicacé de Bernard Pivot, La mémoire n'en fait qu'à sa tête, édité, je vous le rappelle, chez Albin Michel. Mais pour cela, il faut répondre à la question que vous pose séance tenante Bernard Lehu.
Oh, c'est assez fastoche, comme dirait Bernard Pivot. Quel est le comble de la gourmandise et du luxe, selon donc Bernard Pivot, la tartine beurre confiture ou le foie gras sur pain d'épices?
Réponse au 32-10.
On est gentil.
On va passer à nos audiences médiamétrie avec Isabelle Morini-Bosque, nos audiences bien entendu de la veille.
Eh bien, le résultat d'hier soir me fait encore très plaisir, puisque c'est le téléfilm de France 2, Mon frère bien-aimé, qui est en tête. 4 400 000 téléspectateurs pour Olivier Marchal et Michael Youn. C'est 131 000 de plus, pour être exact, que Grey's Anatomy sur TF1. Et en troisième position, logique, c'est le match de foot Marseille-Monaco, qui fait la maille, comme on dit en langage de pêche. 2 900 000 téléspectateurs. Et côté TNT, c'est TMC qui est en tête avec Columbo, inoxydable, plus d'1 300 000 téléspectateurs.
1 300 000.
Je vous rappelle
Moi, les Columbus, je les ai tous vus trois fois chacun.
Bien sûr,
peu,
moi aussi.
C'est ça qui est incroyable.
Moi aussi, et on reste quand même jusqu'au bout. Enfin, en tout cas.
Bon, on va marquer une pause.
The Wall, toujours à un haut niveau. 4 300 000 téléspectateurs sur la une à 19h.
Oui, mais moi, j'aimerais bien pouvoir le voir en replay, parce qu'au même moment, je fais de la télévision et j'arrive jamais à le voir. Enfin bon, allez, on marque une pause avant d'évoquer avec vous, Bernard Pivot, vos souvenirs de journaliste littéraire racontés dans votre livre La mémoire n'en fait qu'à sa tête. A tout de suite, bonne journée à tous.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Nous sommes toujours en compagnie et avec grand plaisir de Bernard Pivot à l'occasion de la parution aujourd'hui de son dernier livre, La mémoire n'en fait qu'à sa tête. Parmi vos souvenirs professionnels, vous évoquez évidemment les grands moments d'Apostrophe, Bernard Pivot. Le concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninov, comment a été choisi ce générique devenu alors célèbre ici?
Voilà, un hasard incroyable.
Bien sûr.
Non, mais cadeau de Noël, il y avait des disques, des 33 tours à l'époque, et il y avait Rachmaninov, le concerto numéro 1 et 2, et je cherchais la musique pour le générique de l'émission qui allait démarrer en janvier 75, et j'ai mis le concerto numéro 1 que je ne connaissais pas du tout, et à un moment, j'ai entendu ce piano, et je me suis dit, oh, c'est... J'ai l'impression que c'est mon émission, ça. Cette vague, cette manière de, à la fois agréable, mais quand même un peu réfléchie. Je me suis dit, je sais pas, j'ai eu un pressentiment et j'ai appelé immédiatement le réalisateur en lui disant, j'ai écouté une musique qui est pas mal du tout. Alors il m'a dit, il me faut 25 secondes. Je lui ai dit, écoute, je crois qu'il y avait 25 secondes. Voilà, ça s'est passé comme
formidable.
Ça.
Donc c'est une intuition, en fait.
Oui, c'est ça.
Et le futur, enfin ce qui s'est passé ensuite, vous a vraiment donné raison. Alors, vous faites décidément, il y en a des révélations dans ce livre, et vous révélez que dans un des numéros d'Apostrophe, vous avez reçu une jeune poétesse dont vous étiez l'amant depuis 6 mois. Personne n'en a jamais rien su.
Oui. Ça me rappelle quelque chose.
Ça, c'est un aveu que j'ai fait. Oui, c'est un aveu que je dois faire. Mais est-ce que je dois vous dire le nom de la poétesse?
Ah, bah tiens.
Alors là, non, bah justement, au lecteur d'aller voir. Je crois qu'on les a suffisamment aguichés.
Isabelle et moi,
on n'en dit pas plus.
On était plutôt pour.
Enfin,
bon, d'accord. On n'en dit pas plus.
Bon, mais il y a un gros clin.
Talentueuse.
Oui.
Très belle.
Oui.
Enfin, grande intelligence, lyonnaise.
Alors là, ça fait beaucoup.
On
n'en dit pas plus.
Mais est-ce qu'il y a des numéros d'Apostrophe que vous auriez aimé faire présenter avec des écrivains disparus, par exemple?
Oh, bah, oui, bien sûr. Bah,
qui, s'il fallait en choisir un seul.
Oh, bah, Voltaire. Voltaire, un tête-à-tête avec Voltaire, je pense, aller à Ferney, puis d'un seul coup, lui dire, voilà, ça chez lui, non, ça aurait été formidable. Mais Alexandre Dumas aussi.
Ah oui.
Hein, Alexandre Dumas.
Avec ses nègres?
Avec tous ces nègres.
Tout de suite. Et puis, non, mais il y a tellement de La Fontaine. La Fontaine. Non, bah alors là, ils sont innombrables.
Alors, on vous a égratigné certains des écrivains que vous avez connus, notamment celui-ci.
Quand j'entends et lis la langue si mal employée, sont des éléphants qui m'écrasent les pieds, ce sont des chacals qui me mordent, vraiment, je souffre.
Pompeux. Plein d'enflure et d'arrogance, écrivez-vous.
Oui, c'est Maurice Druon. Oui, j'ai toujours eu des problèmes avec Maurice Druon. Et je trouvais que c'était bien, c'était son rôle de défendre la langue française.
Oui, c'était objectivement, oui.
Il le faisait d'une manière absolument hautaine, arrogante, boursouflée, etc. Donc c'était effrayant. Et donc j'ai eu une polémique avec lui assez violente, par l'intermédiaire du Figaro.
Oui.
Et il se trouve que dans le texte qu'il avait écrit, où il m'attaquait sur le contenu d'une dictée, il commettait un barbarisme. Et alors, je me rappelle, quand j'ai lu cet article où j'étais attaqué assez violemment, d'un seul coup, j'ai dit « Merci, petit Jésus, il a commis un barbarisme, alors dans ma réponse, alors je ne vais pas le rater. » Évidemment, je ne l'ai pas raté dans la réponse.
Vous lancez également une pique inattendue contre Fabrice Luchini. C'est page 193, c'est amusant ça.
Oui, alors j'aime beaucoup Fabrice Luchini, j'ai une admiration, j'ai souvent invité, mais je trouve, dans son livre, qui par ailleurs était très intéressant, j'ai trouvé qu'il était un peu injuste envers la télévision parce qu'il lui déniait la possibilité d'avoir une influence heureuse sur les gens et notamment les inciter à se dépasser eux-mêmes, à vouloir lire, aller au cinéma, au théâtre. Je trouve qu'il est un peu réducteur dans sa vision de la télévision.
Alors qu'il la regarde énormément.
Hein. Oui.
Oui, et qu'il en est l'un des invités les plus fréquents. Et les plus talentueux. Bernard Pivot, alors il y a aussi des pages plus émouvantes, et vous vous demandez notamment si la mort idéale n'est pas celle qui surprend sa victime en pleine activité culturelle, pendant la lecture d'un livre, un concert, un film, une pièce de théâtre. Vous aimeriez, vous, partir au milieu de quoi?
En train de lire un livre, tant qu'à faire, oui, bien sûr.
Mais lequel?
Ça, je sais pas, j'en sais rien.
Ou avec quel auteur en compagnie de quel auteur?
Un jeune auteur, tant qu'à faire. Et alors je me demande évidemment dans le texte, là, c'est si effectivement, si vous arrêtez si votre vie s'arrête au milieu d'un livre, est-ce que s'il y a une vie après, est-ce qu'on va vous donner la possibilité de continuer la lecture? Est-ce que vous allez retrouver ailleurs le livre, vous dire tiens, merci. Alors soit le Big Bang ou soit Dieu vous dit bon, écoute, voilà le livre, tu l'as pas fini, excuse-moi, je t'ai un peu brutalisé là, mais voilà. Là, tu pourras le finir. En revanche, si c'est au milieu d'un manuscrit, ça, c'est plus compliqué.
Oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez des tweets, cet exercice par lequel vous exercez votre mémoire. Donc, on vous lit chaque matin, vous publiez vos tweets. Et alors, en ce moment, vous êtes très inspiré, évidemment, par cette incroyable politique et cette incroyable campagne présidentielle. C'est un roman à elle seule.
Je sais pas. Alexandre Dumas, c'est rien à côté maintenant. À côté de ce qui se passe en France, c'est quand même inouï. Donc, comment? Avant, je ne parlais pas de politique, mais maintenant, on subit une telle pression médiatique, heure par heure, quasiment, qu'on est obligé de recourir à des commentaires sur cette vie politique.
Vous devenez un commentateur politique. D'ailleurs, vous êtes parfois repris dans certains papiers politiques. Vos tweets sont repris.
Alors, je m'amuse beaucoup.
Celui de ce matin, vous parlez du Salon de l'agriculture, en disant, on reconnaît l'homme politique en visite au Salon de l'agriculture.
Non, les chèvres, les vaches, les moutons, reconnaissent les hommes politiques parce qu'ils se déplacent au milieu d'un troupeau.
Voilà. Ça vous vient comment, ce genre d'idée qui vous traverse l'esprit?
C'est
de l'inspiration.
Je regardais la télévision, je voyais l'homme politique, ou la femme politique, quelle qu'elle soit, il y a toujours une masse incroyable autour d'eux, et je me dis, les vaches, regarde, ils disent, tiens, ah ben voilà un homme politique qui passe.
Mais c'est une forme de pensée, quand même, automatique, quasiment.
On
vous a proposé la présentation du journal de 20h, et même d'ailleurs la présidence d'une chaîne de télévision. C'était bien entendu France 2. À l'époque, Antenne 2.
Oui.
Pourquoi avez-vous refusé ?
Alors, ça, c'est Pierre Desgroupes qui m'avait dit, on va faire le journal alternativement à Christine O'Krent qui avait accepté. Mais moi, j'ai refusé parce que justement, c'était de la politique. Et que moi, le principe de Peter, vous savez, il ne faut pas arriver à son niveau d'incompétence. Peter m'a dit, écoute, non, tu devrais refuser parce que c'est pas ton domaine, la politique. En plus de ça, lire un prompteur. Finalement, non, j'étais pas favorable. J'étais en vacances en Italie, puis j'ai vu dans Le Monde un jour disant que mon nom était cité pour diriger une chaîne de télévision. Alors, j'ai appelé immédiatement en disant jamais. Ça, alors là, je suis incapable de diriger une chaîne de télévision. Le pouvoir, les conférences, les réunions sans arrêt, pour moi, c'est l'horreur de vivre.
Eh ben, c'est parfait de connaître ses limites aussi, mais je vois quand même, sur le journal de 20h, vous vous êtes quand même posé la question.
Ah oui, quand même.
On est bien d'accord.
Oui.
Mais c'est très bien parce que ça va nous permettre de parler télévision dans quelques instants avec Isabelle Morini-Bosque et de retrouver aussi les Express de Charlotte Arrigoni. A tout de suite avec Bernard Pivot.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
L'énorme cafouillage aux Oscars dimanche dernier ne sera pas classé sans suite, Charlotte.
En effet, les deux personnes qui étaient en charge des enveloppes lors de la cérémonie ne travailleront plus pour l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma. Elles ont été remerciées. Rappelons qu'à la fin du rendez-vous, les enveloppes du meilleur film ont été interverties. Une bourde historique, La La Land a été sacrée avant que la statuette ne soit remise à Moonlight.
Il y aura un grand absent au prochain Salon du Livre de Paris. Il s'agit de Maxime Chatham.
Oui, sur son compte Twitter, l'écrivain annonce qu'il boycottera le salon du 23 au 27 mars prochain pour dénoncer le prix d'entrée qu'il juge excessif. On paye un livre, pas l'accès à la culture, s'insurge-t-il. Le prix d'entrée est fixé entre 8 et 10 euros en semaine et entre 10 et 12 euros le week-end.
Cette question maintenant, quelles sont les personnalités qui incarnent le mieux l'optimisme pour les Français ?
Un sondage vient d'être publié à l'occasion de la 4e édition du Printemps de l'Optimisme. Chez les acteurs, c'est Omar Sy qui arrive en tête, devant Danny Boone et Mimi Mati. À la télé, Jean-Luc Reichmann rafle la mise. En musique, Zaz est troisième, Amir deuxième. Et sur la première marche, on retrouve...
C'est Matt Pokora, le chouchou.
Oui, non pas Claude François, mais Matt Pokora qui reprend Claude François. Puis l'optimisme aussi en librairie, c'est Jean d'Ormesson qui remporte la palme devant Guillaume Musso et Marc Lévy.
Elle s'appelle Mélanie, elle est atteinte de trisomie 21, elle va bientôt réaliser son rêve.
Ces derniers jours, Mélanie a lancé un appel sur sa page Facebook pour lutter contre les préjugés. Elle a demandé aux internautes de la soutenir dans son projet. Ce qu'elle veut, c'est présenter la météo devant des milliers de téléspectateurs. Eh bien, son rêve va devenir réalité. Les chaînes ont été sensibles à son message et Mélanie sera à l'antenne sur France 2 et BFM TV le 27 mars prochain.
Enfin, le chanteur américain Pharrell Williams se sera reçu lundi prochain par la ministre de la Culture, Audrey Azoulay.
Oui, l'interprète du tube mondial Happy sera décoré la semaine prochaine au ministère de la Culture. Le musicien américain de 43 ans sera fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il a notamment été la voix de l'énorme Get Lucky du duo parisien Daft Punk.
Merci beaucoup Charlotte. C'était les Express de Laissez-vous tenter. Alors Bernard Pivot, y a-t-il une information qui a retenu plus qu'une autre votre attention?
Oui, effectivement, le salon du livre, oui, bien sûr, parce que la plupart des salons du livre, c'est gratuit. On entre gratuitement dans les salons du livre. On fait payer, effectivement, l'accès à l'accueil. Chatham, il a raison, oui, c'est vrai. C'est pas normal.
Mais vous y serez, vous, par exemple, ou pas, Bernard Pivot, pour faire la promotion de votre livre?
Oui, mon éditeur m'a demandé d'y aller, donc j'irai, totalement. Mais c'est vrai que je suis un peu scandalisé par le fait qu'on demande de l'argent pour accéder au livre. C'est pas normal.
On va passer à la télévision avec les programmes que nous conseille Isabelle Morini-Bosque. Isabelle, alors c'est un soir de télévision extrêmement riche avec beaucoup de nouvelles séries. Oui. Mais vous avez choisi Fou, en fait, un portrait de Jean-Jacques Goldman qui passe sur C8.
Oui, c'est vrai que c'est un soir riche avec d'excellentes nouvelles séries et Bernard Pivot dans la grande librairie. Mais les séries seront là jeudi prochain et Bernard Pivot est là dès ce matin, alors que le portrait de Jean-Jacques Goldman sur C8, c'est ce soir et pas demain. Et ça vous concerne, Bernard, vu qu'une chanson, c'est un poème en musique fait par un homme, Jean-Jacques Goldman, qui a mis son talent au service de ses pairs, sans beaucoup faire d'impair, faut bien le dire, un type qui se fout des idéologies, qui répond juste parce qu'il répond simple. Écoutez-le face à Romain Goupil en 95 à propos des Restos du Cœur.
C'est un vrai, vrai problème politique et d'essayer de le détourner en disant pour 100 balles, vous vous défaussez de ce problème-là. Je suis contre ce rôle limité des Restos du Cœur qui donne simplement un alibi et bonne conscience.
Ça ne donne pas un alibi et une bonne conscience, ça donne à bouffer à des gens qui n'en ont pas, c'est tout.
Voilà. Laurent Boyer, qui en doit ce portrait, a bien bossé, s'effaçant derrière son sujet, un bon sujet qui n'échappe pas aux polémiques. En 2015, accusé d'avoir fait un hymne réac pour les enfoirés, il accepte une interview dérision dans le Petit Journal.
Vous vous rendez pas compte que c'est réac ?
Non, franchement, je m'en rendais pas compte, non.
Bah voilà, le principe d'un réac, c'est de pas se rendre compte qu'il est réac.
Un classique.
Ah bon ?
Ouais, et dire aux jeunes de se bouger, c'est pas réac, ça ?
Mais mon père, il me disait des fois, bouge-toi.
Votre père était réac ?
Papa était réac.
Ouais. Vous dites à vos enfants de se bouger aussi ?
Bah ouais, je leur dis aussi, je sais pas moi, de ranger leur chambre.
Le réac, tellement réac.
Mais voilà. En fait, c'est quoi, beaucoup de pépites à l'antenne ce soir, comme ce passage parodique où Johnny appelle Michel Berger aux États-Unis. Et par le bas, car Goldman est là qui gratouille sa guitare vu que c'est dans ses cordes.
Allô, oui ?
Allô ? Michel, tu vas bien ? Ah ben tant mieux. Dis-moi, je voulais te demander deux, trois choses là. Il est pas un peu bizarre, Goldman ? Non ? Non, parce que, tu sais, il reste des heures debout à jouer du piano dans le studio. Il n'y a pas que lui, tu me diras, mais enfin. Et puis, bon, il fume pas, il boit pas, il se marre pas souvent. Ah bon, il est toujours comme ça. D'accord. Et puis, il y a une autre chose aussi qui m'inquiète. Ça fait une heure et demie qu'il est sur une chanson qu'il m'écrit, une chanson qui s'appelle « Je t'attends ». Ça fait une heure et demie qu'il répète « Je t'attends, je t'attends ». Je crois que ça va évoluer un peu, hein ? Ah, c'est normal ? Bon, d'accord, ok, ben je m'inquiète pas, non.
Voilà, Jean-Jacques Goldman est comme son portrait, constamment prenant et surprenant. On termine par cette confidence de sa mère, j'adore.
D'abord, il était très bien élevé, toujours aimable, toujours poli, mais il me satisfaisait pas beaucoup parce qu'il ne travaillait pas assez. Alors, un enfant doué qui veut pas travailler, alors j'ai envie de l'étrangler tout de suite.
Voilà, il adorait les scouts, Jean-Jacques Goldman. Il était très fier de l'avoir été. Alors, Bernard Pivot, un chanteur qui s'obstine à chanter en français et qui, malgré tout, est un exemple pour la jeune génération, ça doit vous toucher.
Ah ben, c'est magnifique, j'applaudis. Demain, c'est bien sûr.
Bah surtout, non pas demain, ce soir, regardez plutôt le portrait de Jean-Jacques Goldman sur C8.
Ah, jolie réplique, magnifique. Voilà un bon tweet.
Oui, mais j'ai pas votre habileté pour les tweets.
On marque une nouvelle pause et on retrouve dans quelques instants Bernard Pivot pour se dire au revoir et puis pour vous faire gagner son livre, dédicacé des mains de l'auteur chez Albin Michel, je vous le rappelle. La mémoire n'en fait qu'à sa tête. Dans un instant, on se dit au revoir.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Allez, on ne va pas perdre de temps. Quel est le comble de la gourmandise et du luxe, selon Bernard Pivot ? La tartine beurre confiture ou le foie gras sur pain d'épices ? Votre réponse, Bernard Pivot ?
La tartine beurre confiture ou beurre miel ou beurre
chocolat
ou beurre
sucre.
Voilà.
Et la réponse est dans votre livre qui paraît aux éditions Albin Michel. La mémoire n'en fait qu'à sa tête. Merci beaucoup d'être venu passer cette matinée avec nous, Bernard
Pivot.
C'est
moi qui vous remercie, Bernard.
Merci à toute l'équipe. Je vous rappelle, notre rendez-vous bien particulier demain pour notre matinale dès 6h55. Grand rendez-vous avec Emmanuel Macron pour notre premier petit déjeuner de la présidentielle. Il y en aura 5 comme ça jusqu'au premier tour de l'élection avec nos confrères du journal Sud-Ouest et puis en vidéo sur RTL.fr et bien entendu sur Facebook Live. Merci à toute l'équipe et puis maintenant on va retrouver Julien Courbet.